Salut les marqués et smart et bienvenue dans pas Talking Catch, dans Catch Up Raw. Tout va bien.
Ce festival de botch.
Je suis un professionnel de la profession. Je suis accompagné aujourd'hui par Ringside.
Salut.
Et ouais. Et on va parler du Raw du 18 décembre. Si on a l'air un petit peu fatigué de tout ça, c'est parce que en fait on vient de faire un live où mon micro ne fonctionnait pas pendant 20 minutes. Donc voilà, on va tout refaire, mais la première partie du show va aller très vite. Donc voilà. Alors j'ai vous raconter le début. Donc au début, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il y a Kurt Angle, il arrive, il parle de la situation Kane, Strowman, Lesnar. Il dit qu'il sait pas qui va être contre Lesnar, il décidera d'ici la fin de la soirée. Là, à ce moment-là, il y a Braun qui arrive. Braun, très énervé, il dit qu'il mérite la place car il était encore debout à la fin du dernier Raw, contrairement à Kane. Kane, il arrive à ce moment-là, il dit qu'il mérite parce qu'il est le roi de la destruction depuis plus de 20 ans.
Plus de 20 ans, monsieur.
Et voilà, plus de 20 ans, l'artisanat de la destruction. Et voilà, il a jamais été battu par Lesnar, lui. À ce moment-là, il y a Paul Heyman qui arrive des coulisses. Il dit que cette discussion n'aura pas lieu sans le champion et Lesnar. Lesnar débarque. Par contre, juste ringside, je pense que l'écho, il vient de fais gaffe si t'as pas une enceinte d'allumer parce que je n'arrive pas à le fermer. Heyman, donc du coup, il arrive, voilà, il dit, la discussion n'aura pas lieu sans le champion. Lesnar, il arrive. Kurt Angle, à ce moment-là, il annonce, ça sera un triple threat à Royal Rumble entre vous trois. Moi, je me casse. It's true, his name true. Lesnar balance Strowman par-dessus la troisième corde et fait un F5 à Kane. Ringside trouve que le F5 est tout pourri. Il s'est plutôt ennuyé dans cette séquence. Moi, j'ai trouvé ça correct, mais la fun ne m'intéresse pas. Passons au segment suivant.
Kurt Angle était très drôle.
Attends. J'ai regardé sur le chat, on a toujours Sam ton désir, et ben merci Sam, parce que c'est un peu grâce à lui qu'on sait que le micro marchait pas.
Un grand merci hein, de m'avoir supporté à parler tout seul.
De la production. Donc, juste après on a eu Seth Rollins qui arrive, maintenant dans son générique il y a Burn It Down, une nouvelle fois hein, ils l'avaient enlevé, maintenant ils l'ont remis, il attend Samoa Joe, mais c'est Jason Jordan qui arrive. Qui dit... je suis prêt pour affronter Samoa Joe parce que je sais plus exactement d'ailleurs qu'est-ce qui lui a fait Samoa Joe la semaine dernière, mais parce que
vaut mieux pas savoir.
Non, tu ne sais plus. Bah regardez le dernier podcast.
Il lui a cassé la gueule, je pense.
Parce que moi, comme je présentais pas, j'ai regardé le show un peu de travers.
Il lui a pété la gueule dans les coulisses.
Ah voilà. Oui, il lui a foutu une sacrée mandale là dans backstage. Donc ça se chamaille entre Rollins et Jason Jordan. Là, Joe, il arrive, il fait mesdames, si vous voulez danser avec moi, battez-vous l'une contre l'autre pour savoir qui mérite mon attention. Rollins répond « Hey bro, moi j'ai déjà un match de prévu contre toi, donc ramène ta fraise, on va laisser Jordan chercher l'approbation de son père autre part. » Et Jordan, il est pas content, alors il balance Seth par terre. Seth, il est pas content parce qu'on vient de le balancer par terre, donc du coup il dit « Ok gamin, c'est parti pour ton match. » Donc c'est Rollins contre Jordan, je vais pas vous raconter tout le match, moi je l'ai trouvé plutôt sympa, Ringside a trouvé ça chiant. Au final, qu'est-ce qu'on a on a Seth Rollins qui gagne avec le nid sur Jordan. Après, Samoa Joe essaie d'attaquer Seth Rollins. Il attaque Seth Rollins. Les arbitres sont des enculés et retiennent Seth Rollins pendant que Samoa Joe lui fout des mandales. Et puis juste après ça, Samoa Joe, il y a d'autres arbitres qui viennent le prendre, et sur le chemin du retour, Samoa Joe, il faut une bonne mandale à Jason Jordan. Donc voilà. Alors on a bien rattrapé là, on est bon là. On est bon. désolé hein, pour le, ça sera exceptionnel cette fois-ci. Voilà, vous aurez deux segments qui seront en mode speed. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Oui, du coup, après, on a eu un débat. Moi, je suis plutôt intéressé par ce qu'ils font avec Jason Jordan. Ringside, lui, il trouve que c'est mi-fig, mi-raisin. Et c'est toujours un peu la catastrophe. Voilà.
Il faut tourner heel Jason Jordan assez rapidement. Voilà. Seth Rollins est assez lamentable en catcheur. Alors... Babyface. Mais Samoa Joe, il est super cool. Voilà, on synthétise.
Samoa Joe, il est super cool. C'est mon préféré.
C'est mon préféré.
Oui, et moi je disais que ils avaient quand même un petit peu mis en valeur Rollins, parce que dans ce match, quand même, il a réussi à s'en tirer alors qu'il y avait deux mecs qui l'attaquaient en même temps, et que ce sera peut-être indicatif, je pense, de une bonne place en solo par la suite, mais on va parler des événements justement qui suivent dans le show. Mmh. Donc Rollins en coulisses demande du coup juste après cette séquence là en fait il y a la pub et Rollins en coulisses et bah il dit à Kurt Angle Samoa Joe je veux mon match contre lui ce soir, voilà, je l'ai mérité, j'ai dû taper un match contre le gamin relou là. Ambrose qui est juste à côté dit aussi qu'il en veut à Joe parce que il leur a coûté les tags, enfin le titre tag team contre Cesaro il y a quelques semaines, je crois. Mmh. Et Jason Jordan, lui, il arrive pour se plaindre aussi. Parce que, oula, parce qu'il se plaint, c'est son personnage, mmh. quoi. Kurt Angle leur propose un 3 contre 3. Rollins, Ambrose, Jordan contre Cesaro et Joe. Au début, ils boudent un peu, mais ils acceptent. Et Ambrose montre la tête de Jordan et dit « Look at that face, I can't team with a face like that ». Ça m'a fait très rire.
Moi aussi.
Donc voilà. C'est juste un petit passage backstage. On va passer très vite aussi sur la promo de Bray Wyatt, hein, qui du coup s'est moqué de Matt Hardy et de son rire et du public. Et il dit que c'est des enfantillages. Et voilà, c'est la vraie guerre. Et c'est la guerre. Et un jour, tu vas mourir. Et blablabla.
Voilà. C'est Bray Wyatt classique, quoi.
Finn Balor arrive pour un 2-on-1 handicap match contre Bo Dallas et Curtis Axel. Balor se fait massacrer la majorité du temps et ça se finit en disqualification parce que Kurt et Bo en ont marre que Finn soit indestructible parce que voilà, il sort au compte de deux en permanence. Et donc ils se font disqualifier en attaquant Balor au centre du ring en même temps les deux quoi. Et là alors que les méchants s'occupaient de Balor malgré que la cloche avait sonné, je ne sais plus parler français, c'est la surprise. Hideo Itami arrive à la rescousse. Babyface, on est reparti donc pour Hideo Itami, enfin après la pub, Hideo Itami, Finn Balor contre Bo Dallas et Curtis Axel, bien entendu. La victoire des Face, enfin malgré la configuration qui favorise les Face au début du match, il y a Curtis Axel qui domine un peu sur Balor, il combine avec Dallas pour coincer Balor dans le coin du ring, et bien sûr le hot tag pour Hideo Itami, bicycle kick, des chops de partout, et ça se finit avec un GTS des familles qu'on peut appeler GTS maintenant que CM Punk n'est plus là.
Le go to sleep. Hein.
Le go to sleep. Donc voilà, et puis on nous dit attention, enfin une petite bande annonce juste après, attention, pour la première fois ever, Hideo Itami à 205 Live demain, mais en fait non, la première fois ever, c'était il y a deux secondes. Mais
voilà. C'est début lundi et des débuts mardi.
Voilà, c'était il y a
je pense qu'on le verra à SmackDown la semaine prochaine.
Il débute, c'est un renouveau de chaque jour. Hideo Itami. C'était pas Jojo. C'était pas terrible. Il paraît, alors moi j'ai entendu, après c'est en podcast que j'ai écouté, je suis pas très bon pour remarquer les botches, à part s'ils sont vraiment grossiers, mais il paraît qu'il a un peu botché.
Son GTS c'était dégueulasse. Hein. Il a bien eu du mal. Ah oui, il y a ça, et il a fait un tornado DDT dans le coin du ring, là où ils ont réussi à rien faire là avec Curtis Axel.
Il y a eu une espèce de
botch dans le match.
Il y a eu une espèce de combinaison que j'ai trouvé assez ridicule où je crois que c'est Itami qui tient Bo Dallas ou Curtis Axel comme ça, il tient le bras et t'as Balor qui saute et qui fait clac sur le bras, genre un espèce de coup comme ça sur un bras tendu
à l'ancienne.
Et c'était nul. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, c'est censé faire quoi ça?
Il n'y a rien qui va dans ce truc là.
Donc c'est dommage parce que j'avais un éclair. J'ai eu 3 secondes d'excitation. deux secondes et demie.
Ouais.
Genre, j'ai entendu la musique d'Itami, j'ai fait ah cool. Pourquoi pas.
Sauf qu'il arrive out of shape. Il a une physique dégueulasse. Il est tout petit. Il est vraiment tout petit.
Il est tout petit.
Il arrive pas à porter Curtis Axel, quoi. C'est quand même, ça va être quand même chaud pour lui. Hein. Ils ont bien fait de le mettre à 205 Live. Et le pauvre Finn Balor, il a même plus droit à des intrigues maintenant. Alors il est en match handicap, on sait pas pourquoi. Il n'a pas le droit à un segment backstage, il a droit à rien du tout. Bon, au final, c'était pour faire venir Hideo Itami, mais
tu sais, à tout
ça va être difficile.
Live,
hein.
Je veux pas être méchant, mais à 205 Live, The Man That Charisma Forgot, c'est Cédric Alexander. Arrow, c'est un peu Finn Balor.
Ah, parce qu'ils font plus rien avec.
Ouais.
Finn Balor, quand il arrive, la foule est en feu. Quand il fait son entrée, les gens ils attendent que ça de popper pour lui. C'est pas du tout le cas de Cédric Alexander.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le peu de feu d'où il a dû parler.
Moi, qu'il soit léger au micro, c'est une chose, mais ça fait pas tout.
Il
a un truc qui passe au-dessus. Finn Balor.
Après, je pense que son autre problème aussi, c'est clairement sa carrure en fait. Alors, à NXT, ça va parce que il y a plus de mecs un peu de son gabarit ou qui n'ont pas forcément. Enfin, en tout cas, dans le roster principal, on voit que. En ce moment, c'est le règne des Mastoc, etc. Et du coup, moi, Balor, là, en ce moment, je pense qu'il n'a pas de chance en solo et il aurait plus de chance en tag team.
Je pense pas. Moi, ils l'ont balancé direct champion universel. Il serait pas blessé, il aurait été crédible.
Oui, mais ça, c'était avant la période, c'était avant la grande période de Strowman et tout ça, quoi.
Bah peut-être, mais il y a quand même de la place dans le show pour qu'il fasse des étincelles. Hein. Ils auraient pu très bien le mettre contre Brock Lesnar, ça n'aurait pas posé de problème. Hein. Non, franchement.
Alors ça, toi, t'es partisan du Balor. T'es partisan du Balor Lesnar, moi je suis pas du tout partisan de ça. Ouais, je n'imagine pas un match de Balor Lesnar dans lequel j'arrive à rentrer. Parce que je peux pas. Au bout d'un moment, il faut quand même un minimum de cohérence dans ce qu'on voit dans le ring, quoi. Tu peux pas faire Balor contre Lesnar, c'est juste.
Oh, du moment que t'as pu faire AJ Styles Lesnar, y a pas de raison. Hein.
Oui, mais Styles,
il a pas un physique
même...
si dégueulasse que ça. Il va venir en.
Non, mais
Styles,
il est quand même beaucoup plus baraque que Finn Balor.
Ah, bah, non, t'es taré, toi, il est tout petit, AJ Styles.
Non, mais alors, il y a une différence. Je te parle de baraqué et je te parle pas de taille. Je te parle de genre corpulence. AJ Styles, c'est quand même un mec qui est beaucoup plus développé au niveau musculaire que Finn Balor. Ça se voit carrément. Mais
ouais, non, je te suis pas. Hein. Il est quand même bien affûté, hein, Finn Balor.
Non, mais oui, il est affûté, mais il est comme ça.
Ouais, tu veux dire qu'il est plus sec et.
Oui, voilà. Mais c'est juste une question de. Quand je te dis, c'est juste une question de corpulence. Je parle pas de. Est-ce que
Dean Ambrose contre Brock Lesnar.
Ouais, mais
dire
c'est
que
oui,
Dean
mais
Ambrose, il est plus.
Mais
carré,
Dean Ambrose, c'est une carpette.
Que...
Oui, mais bah. Dean Ambrose, tout son jeu, c'est d'être une carpette, c'est d'être le mec intuable. Parce que il se relève tout le temps, quoi, et puis il fait des trucs suicidaires, etc. Moi, excuse-moi, Finn Balor qui fait des kicks à Brock Lesnar en boucle, j'y crois pas, quoi.
Enfin, non, mais après, tu fais un match contre Lesnar, tu sors autre chose que ce que tu sors en weekly.
Mais enfin, bref, fais petit coucou aux gens dans le chat. Là, il y a Sam, Richard, Maxence, tout ça. Merci d'être passé.
Les gars.
Et puis, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard parce que justement, on a enregistré 20 minutes qu'on a foutu à la poubelle parce que mon micro marchait pas.
Voilà.
Donc, voilà. On va continuer après ce grand débat. C'est Cédric Alexander qui est en interview avec René Young. Qui lui demande est-ce que vous sous-estimez pas Drew Gulak hein, ce soir, parce que bien sûr on va avoir Cédric Alexander contre Drew Gulak pour une chance au titre de Enzo Amore, le titre Cruiser. La semaine. Attends, est-ce que c'est au pay-per-view ou c'est la semaine prochaine?
Alors tu m'en demandes trop.
Je ne sais plus. En tout cas, il a une chance au titre. Je crois que c'est avant le pay-per-view.
Je pense qu'ils vont pas. On va pas un petit peu Rumble pour avoir ça quand même.
Donc. voilà. Bon, j'ai même pas noté ce qu'il disait parce que c'était vraiment pas intéressant. C'est genre, je vais gagner, c'est l'école des champions, quoi. Enzo et Gulak, donc du coup, ils sont au centre du ring, hein, ils arrivent. Ça parle de Star Wars, il y a Enzo qui se considère comme le dernier Jedi, il y a Drew qui se considère comme un Jar Jar Binks. Et
Excellent.
juste au moment où il va balancer sa PowerPoint presentation, hein, comme d'habitude, Alexander arrive. Et donc il y a un match, mais j'ai noté Enzo blablate tellement qu'on n'arrive pas vraiment à suivre quoi que ce soit. C'est Alexander qui gagne, malgré une belle résistance de Gulak à base de soumission, un très joli DDT aussi, je crois, à un moment. Donc voilà, mais franchement, si vous avez réussi à regarder, alors ça dépend si vous regardez sur AB1 avec les commentaires français, etc. Mais si vous regardez avec les commentaires originaux, et si vous entendez vraiment Enzo Amore, c'était impossible de suivre le match, le
Il n'a
mec.
pas lâché le micro de tout le temps.
Ouais. Et surtout, les commentateurs essayaient, pas seulement façon kayfabe, genre réellement de l'arrêter à un moment pour pouvoir dire deux trucs sur le match. Impossible. Donc voilà. Bon, le match était
C'était pas un mauvais
correct.
match, hein.
Oui, non,
Ouais, c'est vrai.
c'était correct. Et puis ça montrait que, bon, moi je vois pas souvent, comme je regarde pas Two of Five là, je vois pas forcément Gulak. Souvent dans le ring, pas mal. Hein.
Ouais, pas mal, ouais. Solide, solide Goulak, hein. C'est pas n'importe qui non plus.
Donc voilà, on aura Cédric Alexander contre Enzo Amore pour le titre. À un moment, parce que j'ai pas noté quand. Mais ça sera soit la semaine prochaine ou soit au Rumble. J'imagine que ça va être la semaine prochaine, à 205 Live. Donc voilà. En coulisses, on a Enzo qui croise Nia Jax. Hein. Nia Jax qui avait commencé à faire un peu de l'œil à Enzo ces dernières semaines. Elle sourit. Elle fait un peu peur hein, quand elle est heureuse, Nia Jax. Hein. Elle a un sourire
Ça
qui.
lui réussit pas
Ça
trop.
ne marche pas. Donc ça drague sec. Mais à ce moment-là, il y a Gulak qui arrive, le nez saignant et suant comme un porcelet. Il dit à Enzo qu'il voulait être le premier à lui annoncer sa défaite. J'ai presque envie de la refaire cette séquence tellement elle est géniale. Enzo, je vais être le premier à te dire j'ai perdu.
Faut qu'on voit les vidéos.
Il fait faut vraiment qu'on parle là, qu'on parle stratégie. On va regarder les vidéos ensemble. Je suis vraiment désolé, hein, mais là. Et donc du coup voilà, il y en a à Jax juste à côté qui a pas envie de rester là, hein, donc du coup elle se casse. Et là, donc du coup, je sais plus Gulak à un moment il dit, faut vraiment que je vois là où j'ai merdé. Et là il y a Enzo qui dit, t'as énormément merdé aujourd''hui. Voilà, très très jolie séquence.
Ouais, excellent, excellent. Moi, j'étais vraiment pas bien tout le début du show. À partir de l'arrivée d'Enzo et de Gulak, c'était vraiment fun, hein, il n'y a pas à chier. Hein. Il a été exceptionnel, Enzo Amore, au commentaire. Gulak, ben, comme tu disais, on l'a vu un peu dérouler son catch. Alors, autant pour moi, Cédric Alexander, il peut passer à la compta, prendre son chèque et puis retourner à l'Evolve ou ailleurs.
Comment tu le détestes, Cédric
Autant.
Alexander? C'est un truc de fou.
Non, mais y en a.
C'est de la haine gratuite, quoi.
Oui.
En fait, toi, tu fais à Cédric Alexander ce que je peux faire à Finn Balor de temps en temps, tu vois. C'est genre.
Exactement. Je vous rappelle que c'est lui qui a éliminé Tristan Archer du Cruiserweight Classic, donc il n'y a pas de raison que je sois sympa avec lui. Hein. Je
Je
suis un
vois
mafia un peu chauviniste.
même pas qui c'est Tristan Archer.
Bah oui, bah va te renseigner. Hein. Il est
Mais
temps.
moi j'ai pas toute ma semaine pour regarder du catch.
Oh, si on peut plus rien dire.
Je regarde déjà pas SmackDown.
En tout cas, du grand Enzo. Je me souviens pourquoi je l'ai
Ouais.
défendu pendant aussi longtemps. C'était exceptionnel ce qu'il a fait au micro, à prendre, manger la parole à tout le monde, surtout qu'il racontait que des trucs hilarants. Et puis Drew Gulak, voilà, il est aussi exceptionnel dans ce personnage de Mongolo, là, Gabigou, là, qui est toujours en train de la plaque.
Gabigoulak. Mais
Et ils arrivent à rendre intéressant un truc avec une historiette d'amour avec Nia Jax quand même. C'était vraiment fait.
non mais le truc que j'ai trouvé aussi super super drôle le passage c'était où il parlait de sa maison comme quoi je sais plus il laissait sa maison genre Il laissait sa maison vide pendant
Oui.
3-4 semaines et je sais plus, il y a
Il y a toujours une
corrélation.
température de 23
Ouais, il
degrés.
fait, ouais, là, tu vois, je laisse ma maison pendant 3 semaines et quand je la retrouverai, elle sera pile à cette température-là et tout ça. Et je sais plus, chorégraphe qui lui sort, mais là, vous laissez votre maison pendant 3 semaines, vous avez pas peur que quelqu'un vole des trucs et tout ça. Enfin bref, c'est parti tellement. Tellement en vrille. Et il y avait Booker T qui jouait le défenseur de Enzo Amore. En fait, je dirais que presque la partie commentaire est plus importante à écouter que regarder ce match, en fait. La partie,
Ouais, carrément.
partie commentaire était hallucinante. Après, au début, j'ai eu du mal. Au début, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être pénible, mais une fois qu'on commence à suivre. Enfin
Ouais,
bref.
mais ça arrête plus, c'est impressionnant quand même. Et le match était bon, hein, non, faut
Ouais,
quand
voilà,
même saluer la
non, mais
pertinence des deux.
le match était bon, mais c'est vrai que j'ai du mal à suivre le match avec le bordel qui se passait. Donc, on a ce match que je vous ai annoncé, Jordan et la moitié, ou les deux tiers du Shield, contre Cesaro et Joe. Ça commence avec Seth Rollins contre Sheamus, sauf que Jordan le tag Seth Rollins direct, vu qu'il veut faire son malin, et il se fait massacrer par le trio de Heels. Enfin de heal, un à un dans le coin du ring. Pour la suite, je vais vous résumer quelques trucs. Alors que Rollins se fait massacrer dans le ring, Jordan intervient pour attaquer Joe et s'est fait sortir par dessus la troisième corde. Après un duel avec Sheamus, Rollins se fait démonter par Cesaro et il joue à qui va pousser l'autre dans le coin du ring. Il y a une séquence un peu étrange comme ça où ils sont comme ça en mode un peu mêlé de rugby. Et ça se finit dehors en bataille générale. Et c'est Dean Ambrose qui vient nettoyer les heels pour permettre à Rollins de remonter dans le ring à ce moment-là. Ambrose est à deux doigts de taguer l'architecte quand Cesaro lui balance une big boot très violente dans la face. Le sortant dehors, Rollins évite Joe et Sheamus qui viennent à ce moment-là l'attaquer. Tout le monde se retrouve devant le ring. Et là, c'est Rollins. Il nous refait une bonne vieille suicide dive. Puisque il a vraiment envie de mourir sur scène, Seth Rollins, parce qu'il fait des suicide dives genre toutes les 20 minutes, ce gars. Donc à ce moment-là, on voit que Ambrose s'est blessé hein, à l'épaule. Réellement, donc du coup, alors je dis dans ce segment, mais on apprendra plus tard qu'en fait il était déjà un peu blessé, mais bref. Au centre du ring, du coup, à ce moment-là, où c'est le chaos un peu partout, il y a Sheamus qui délivre un broad kick à Rollins. Cesaro en profite pour faire le tomber. 1, 2, 3, victoire des Heels. Plus tard, on a Samoa Joe et Cesaro qui vont attaquer Rollins dans les coulisses. Puis Ambrose, en lui balançant une caisse de matériel sur le bras. Joe dit à Rollins, tu ne seras jamais en sécurité. Jamais. S'ils sont pas ils ceux-là, hein.
Ça, c'est du huile pure souche.
Là, il y avait une double, je dirais même triple dose de heal pour Samoa Joe ce soir. Hein.
Ah ouais. Bien montré qui c'était le patron.
Qu'est-ce que tu as
Puis
pensé
les autres
du
aussi derrière.
match?
Le match était super bon. Encore une fois, du grand Cesaro. Hein, dans ses œuvres-là, faudra récompenser un jour Cesaro. Pour tout le boulot qu'il a fait cette année, il a remonté à lui tout seul la division tag team. Ça fonctionne bien, là, leur système de triple threat comme ça en weekly. Surtout quand tu as autant de talent dans le ring. Non, j'ai vraiment trouvé ça que c'était un très très bon match pour le coup. Beaucoup plus percutant que ce qu'on a eu au début. Sur le cas Ambrose, je pense qu'il doit avoir un problème au coude et qu'il va se faire opérer. Hein. Je sais pas, j'ai pas lu de news
C'est
précisément, j'ai pas été
l'épaule. Moi,
fouiné.
j'ai lu sur l'épaule droite en fait qu'il avait un problème à l'épaule droite
D'accord.
et que du coup, il y a. Alors, ce qui est bizarre, c'est que apparemment, c'était connu avant le match, mais c'était pas forcément
Ça s'est
super.
vraiment aggravé ou c'est
Parce que
ouais.
oui, mais du
En
coup,
tout cas, il
non,
faut
mais tu sais,
qu'il se fasse soigner
ils
quoi.
auraient pas pu improviser le. Clairement, là, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est pour qu'on le voit plus la semaine d'après, en fait. La séquence, tout ça. Donc, du coup, ça, ils auraient pas pu l'écrire genre en même temps que le show. Genre, ah merde, il s'est blessé, on fait un segment juste après. Je pense que c'est pas le genre de truc. Tu peux pas improviser pendant une
Ah
coupure
ouais,
pub, quoi. Donc.
Donc une fausse blessure qui cache une vraie blessure.
Voilà.
Ok.
Je pense que ça
Bah
va
du
être.
coup on va retourner en solo. On n'a pas vu Roman Reigns ce soir.
Oui.
Le shield va être dispersé pendant un moment là du coup. Hein.
C'est pour
Ce qui
ça
est
que
un
je
peu
pense.
dommage. Hein, c'est le shield, le retour du shield n'aura pas été ce qu'on espérait. Hein, ça c'est sûr.
Je pense que le. Comment? Je pense que c'est pour ça qu'en fait, Rollins a plutôt eu le dessus ce soir par rapport à. Enfin, sauf à la fin, mais par rapport à Joe dans son match. En tout cas, quand il était contre Jordan et Joe, il s'est pas fait démonter. Je pense que s'il avait. Si on était toujours dans la perspective de tag team Rollins-Ambrose, c'est à partir du moment où tu es dans une tag team, c'est moins grave de perdre seul finalement en fait. Donc voilà, je pense qu'ils vont. Alors je dis pas qu'il va aller à la ceinture, mais je pense qu'il va faire des, il va avoir une rivalité. Je pense qu'ils font plus confiance à Rollins pour avoir une rivalité contre Joe que Jordan. Mais bon.
Ouais. Il n'y avait pas un. Là, je suis en train de réfléchir. Il n'y avait pas un match qui était booké le Shield contre Joe et Sheamus et Cesaro pour Royal Rumble? J'ai inventé ça?
Je ne crois pas.
Ok.
Je ne crois
Bon,
pas. Je...
c'était pour cette semaine et puis ils ont changé l'affiche alors.
Parce que. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui était déjà booké pour le Rumble? Je veux dire, à part le match du Rumble, pour l'instant, je pense que c'est le premier soir où ils ont commencé à booker des choses pour le Rumble.
Peut-être
Donc,
dans ma tête.
en coulisses, on voit arriver Stephanie McMahon. On en parlera plus tard, mais si vous voyez le titre de notre podcast, vous le savez déjà. C'est l'heure de Woken Matt, Broken Matt Hardy, tout ce que vous voulez. Delightful. Il joue aux échecs dans une espèce de paradis blanc, comme dirait Michel Berger. Il parle d'événements historiques avec un prénommé Napoléon. Alors, on voit pas contre qui il est en train de jouer. En fait, on se rend compte que ce Napoléon est un poisson rouge. Et dans le jeu d'échecs, il a son armée de Woken Warriors et il se bat seulement contre un roi et une reine, Bray Wyatt et Sister Abigail. Donc voilà, après c'est du blabla, mais Woken Warriors vont illuminer l'ombre de Bray Wyatt et des conneries du genre. Donc voilà, c'était le segment de Woken Matt qui était quand même beaucoup plus supportable. Plutôt marrant par rapport à celui de Wyatt. Hein.
Ah bah toujours, oui. Encore heureux. Encore heureux. Non, c'est Matt Hardy dans ses œuvres là pour le coup, mais lui il est toujours marrant.
Ouais.
Il y a toujours le public qui pop derrière, on l'entend. Maintenant j'ai peur que ça se limite à une battle de petits segments comme ça en vidéo,
Et le
plus
truc
qu'à
qu'ils
un
doivent
match.
arrêter, c'est le. Je ne sais pas quel con a décidé d'avoir cette animation avec du verre brisé là. Mais
Ouais,
alors ça,
c'est des
c'est
gros.
nul à chier. Ça te sort du truc. C'est genre, hey, regarde, j'ai mis un générique sur le segment. Non, ça sert à rien.
Ouais, je suis pas sûr que les mecs qui font la réalisation à la WWE aient la subtilité qu'avait Jérémy Borash là, qui s'occupait de la réalisation des segments à Impact Wrestling là, à la TNA à l'époque, pour tout ce qui concernait Matt Hardy et compagnie. J'ai peur qu'ils n'aillent pas assez à fond sur ce gimmick Woken. Alors que ça, quoi qu'il, ça fonctionnerait, quoi qu'il puisse faire. Il faudrait pas que ça se limite simplement à ces jeux de vidéos, que Matt Hardy reste tout seul, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent plus en faire un truc sur les réseaux sociaux, un hashtag. Voilà, on fait tous partie de l'armée de Matt Hardy.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils
Ça
mettent
arrive.
les. J'aimerais bien qu'ils mettent les moyens, mais peut-être qu'ils sont en train de le faire. C'est juste qu'ils ont besoin de temps, mais qu'ils mettent les moyens pour faire ce qu'ils faisaient avant aussi bien, c'est-à-dire des courts-métrages limite, où il se passe des trucs complètement invraisemblables, où je sais pas, t'as Bray Wyatt qui cherche Matt Hardy dans la forêt et puis il tombe sur. Sur, je sais pas, la famille de Matt Hardy, ils sont en train de faire un rituel ou des conneries du genre, tu vois. Enfin, c'est le genre de truc qu'on a vu quand les Hardy décidaient de filmer chez eux avec des drones et compagnie. C'est l'heure d'une bonne nouvelle. Nous avons enfin une bonne nouvelle. Je l'entends à l'oreillette. On n'y croyait plus, mais ces papilles en sucre sont de retour. The Revival n'est pas mort. Il se brise une jambe dès qu'il court un peu trop vite, mais ils sont là. Ils sont contre Heath Slater et Rhino. Le match rapidement, alors que Wilder se fait malmener par Beauty and the Man Beast. On voit en coulisses qu'il y a Dana Brooke qui a rejoint le Titus Worldwide hein, qui est en tant qu'assistante. Comme dit Booker, elle sait compter les calories. Et le match, il y a Revival qui gagne avec la Shatter Machine. C'était bien, mais c'était pas assez long pour laisser s'exprimer le talent des Revival. Mais en coulisses, alors ça, j'ai trouvé ça assez étonnant comme segment. On a Kurt qui dit à Slater et Rhino qu'ils ont fait un bel effort dans ce match. Mais avec le show de Noël qui arrive, il faut qu'ils fassent mieux que ça s'ils veulent des opportunités. Et là, il y a Rhino qui dit à Slater, il faut que tu muscles ton jeu, j'ai un plan, on verra ça la semaine prochaine à mon avis. Slater qui dit c'est pas un truc qui demande des efforts.
Ça risque pas d'être douloureux. J'ai besoin de ce job, j'ai des gosses. Voilà. C'était marrant ça. En plus, Kurt Angle est toujours marrant aussi quand il s'y met. Le Revival, on est content de les voir. Ça va être difficile pour eux. Dawson, il a déjà un genou pourri, un coude pourri. Là, il revient de blessure, ça va être chaud. Maintenant, il faut, voilà, laissons-leur leur chance. Voir ce que ça donnait. Ils ont montré ce qu'ils savaient faire. On sait qu'avec eux, c'est du très très bon catch.
Si vous pouvez, vous pouvez juste survivre pendant 6 mois,
essayez.
6 mois, quoi. Parce que là, ça commence à. Voilà. Là, on arrive dans la zone.
Le truc, c'est qu'est-ce qu'on a comme
adversaire pour eux. En fait, on arrive dans la friend zone de la WWE. C'est-à-dire quand tu te fais blesser deux fois dans la même année, tu te fais friendzoner par la WWE. Donc du coup, c'est genre le mieux que tu peux faire, c'est genre la mid-card mais pas de ceinture. Et donc, tu me diras avec les tag teams, il n'y a pas vraiment de mid-card. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est dommage. Et puis pendant qu'ils n'étaient pas là, du coup, ils ont remplacé le manque... par des tag teams de superstars qui sont pas en tag team et des trucs comme ça, enfin bref.
C'est ça. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont comme adversaire potentiel, le Revival.
Là, en face, c'est une bonne question. Des tag team face, à part Ambrose et Rollins, j'ai un blanc.
Voilà, ils ont affronté
Rhino et Slater. Qu'on a sorti un peu du placard, hein, parce que Rhino et Slater, ils sont là une semaine sur trois ou quatre.
Les Hardy sont blessés.
Ouais, et puis les Hardy, ça va pas être tout de suite, à moins qu'ils fassent une Woken Tag Team, mais bref.
Passons, ça va être chaud, quoi.
Passons à l'homme qui est sur mon t-shirt, Sanson, qui arrive dans le ring. Et montre qu'il est un dieu de la guitare, hein. Très joli petit solo. Il dit qui est fan de Tom Brady. Tom Brady, donc du coup fameux footballeur américain qui a versé dans quelques polémiques. Ensuite, il raconte que Tom est venu le voir en concert et qu'il écoute tous ses albums pendant qu'il prépare ses matchs en dégonflant des ballons, en manipulant les règles. Bref, il soulève donc du coup un peu toutes les controverses qui ont été autour de le truc de dégonflage de ballon, c'était pas au Super Bowl, je sais plus, enfin c'était pendant le Super Bowl il me semble, mais
toutes nos idoles, hein, ils veulent nous briser, enfin, toutes nos idoles
pendant les qualifs pour le Super Bowl. Bref, il se fait interrompre par l'arrivée de Sasha Banks sans aucune explication, hein. Sasha Banks arrive et puis elle se met à côté de lui dans le ring et puis elle dit rien et on sait pas vraiment pourquoi. Puis c'est Mickie James qui arrive, puis c'est Bayley.
Alors, qu'elles ont un match derrière, hein, normalement.
Oui, enfin, je dis, on sait pas vraiment pourquoi. Disons qu'on sait pas vraiment, dans le contexte de genre, il y a Elias dans le ring, on sait pas pourquoi Sasha Banks arrive à ce moment-là, mais bref. Donc, ouais, il y a Mickie James qui arrive là, à ce moment-là, Elias sort une phrase plutôt sympa. Il dit, je sais plus, toutes les filles veulent marcher avec Elias. Et puis là, c'est Bayley qui arrive, et puis bon, c'est Bayley, donc du coup, là, Elias, il dit, ah non. Non merci. Il sort du ring, Bayley tente de le huguer, il fait non et il s'en va. Après la pub, c'est Absolution qui arrive pour le match. Sacha se fait vite piéger par les heels. À l'extérieur, Sonya Deville massacre Bayley. Mandy Rose s'occupe de Mickie James. Paige est distraite à donner des ordres à ses copines hein, à l'extérieur pour massacrer le reste de l'équipe. Et à ce moment-là, Banks tente un saut de la top rope, mais se fait vite attraper par les deux rookies qui lui foutent des mandales au centre du ring. Voilà, tout un merdier qui nous mène une nouvelle fois à une disqualification pour sauver la cavalerie. Alors que je crois que c'était Banks qui se faisait encore massacrer. C'est Nia Jax qui est donc devenue babyface cette nuit. Et réussit du coup à maîtriser le trio d'absolution, puis place un Samoan Drop de Mandy Rose et Sonya Deville en sandwich. Paige arrive pour faire le tomber, enfin pour faire tomber la géante, et à ce moment-là, donc du coup, tout absolution se réunit pour taper sur Nia Jax. Et là, tout le locker room féminin arrive. Pour une raison inexpliquée, hein, je trouve, mais bon.
C'est déjà arrivé la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines.
D'accord. J'ai noté, ils arrivent à la rescousse pour sauver Nia, qu'ils adorent tous, d'amour. Donc, Stéphanie McMahon arrive, et bien sûr, à ce moment-là, tout le monde s'arrête de se battre parce que maman est arrivée. Mmh. Elle fanfaronne sur la Women's Revolution, et on a été les premiers à faire ça, La WWE, c'est des progressistes. Et bref, elle annonce qu'il y aura un Royal Rumble match féminin au prochain pay-per-view, donc le Royal Rumble. For the first time ever, à la fin, Steph est tellement fière d'elle-même qu'elle dit au public, bah, c'est le moment de crier yes, 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 allez, bande de moineaux. Ça, c'est moi, je l'ai rajouté, mais c'était quasiment ce que... Et c'est la fin de ce Raw. En fait, c'est un peu. Je pense que c'était un peu la pire façon. En fait, c'est comme si tu prenais une bonne idée à ensuite essayer de réunir toutes les pires conditions pour annoncer ce truc. Enfin, bon, j'ai entendu aussi dans d'autres. Une nouvelle fois d'autres podcasts, mais c'est. La WWE fait mine de mettre en valeur les filles tout en les prenant de haut, en fait. C'est vraiment ce que je vois dans ce segment. C'est-à-dire que on leur dit, hey, les filles, mais vous savez quoi, nous on est vachement sympa avec vous parce que on vous a permis de faire ça, on vous a permis de faire ça, et du coup maintenant on est encore plus ouf parce qu'on vous permet de faire ça. Est-ce que vous êtes contentes? Et du coup, on sort totalement du kayfabe pour la morale de ce segment, c'est applaudissez la WWE. C'est pas applaudissez les filles, c'est pas rentrer dans une histoire où le Rumble pourrait être justifié par les rivalités qu'il y a, etc. Mais là, non, c'est Stéphanie McMahon qui arrive au milieu du ring et qui parle pendant 20 minutes et qui est genre moi, la WWE, la Women's Revolution, c'est nous. Tu vois, c'est... De temps en temps, elle dit, et c'est grâce à vous, mais sinon, la majorité du temps, c'est genre la WWE. Et je trouve ça insupportable. J'ai trouvé ce segment, genre, la meilleure façon de montrer que les filles ne sont pas vraiment indépendantes à la WWE, que. C'est tout le temps, on vous autorise à faire ça. C'est jamais naturel, en fait. Ce qu'on leur offre, la majorité du temps, j'ai l'impression que c'est pas naturel. Il y a quelques trucs qui ont été naturels, genre le Hell in a Cell, c'était logique, je trouve. Mais sinon, c'est tout le temps un responsable de la WWE qui vient en faire des caisses sur un truc, en fait, qui justifie pas par l'histoire qui se passe, par la feud, il justifie par le fait, bon bah on a décidé, maintenant c'est autorisé, voilà, maintenant on organise ça, j'ai trouvé ça nul.
Voilà. Oui, non, moi, je suis pas emballé par le segment de fin, c'est assez mal présenté, mais alors par contre j'adhère pas du tout à cette théorie là de la WWE qui utilise les femmes ou je sais pas quoi, ils font le Royal Rumble.
C'est pas qu'ils utilisent les femmes, c'est que en fait
Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour toi, il présente la WWE qui est mise en avant parce qu'elle est progressiste, et finalement, on ne met pas les filles en avant pour le travail qu'elles accomplissent. Mais
Voilà.
c'est si tu veux, pour moi, c'est juste un plan média qui est un peu mal foutu. Ils mettent ça en avant, le côté historique, pour que ça fasse du buzz, pour qu'on en parle. On ne sait jamais, ça peut en parler dans les médias mainstream, étant donné que c'est une première. Ils sont obligés de faire un peu de pub comme ça. Alors, c'est trop lourd. C'est assez mal foutu, c'est assez mal amené. On voit bien qu'ils ont ramené toutes les filles dans le roster là, juste pour avoir le nom pour faire le Royal Rumble. Mais après, il ferait le Royal Rumble, le premier Royal Rumble féminin, sans faire du tapage autour. Pour moi, ce serait pas très intelligent non plus.
Mais c'est pas
Maintenant,
sans
c'est,
faire
je suis
de...
d'accord que c'est mal fait, mais alors, après, dire que c'est la WWE qui essaye de se mettre en avant. Moi, j'entends même des trucs du style, c'est Stephanie McMahon qui fait ça pour sa carrière politique derrière. Pour moi, ça tient pas la route 30 secondes. C'est juste qu'ils ont un plan média qui est un peu pourri.
Je pense pas que c'est une question de carrière politique. Je pense juste que c'est leur façon de réfléchir et aussi l'ego de Stéphanie McMahon, parce que c'est juste, c'est, enfin, tu peux pas dire que ce segment est pas juste centré autour de Stéphanie McMahon. C'est juste,
Ouais, mais c'est parce
elle
que c'est
passe
le, c'est
sur
le, c'est le, c'est le plan média qui est comme ça, c'est sûr que ça. Mais après, derrière, il faut voir l'avancée que ça fait au niveau du catch féminin. Si chaque année, maintenant, tu as un Royal Rumble féminin, faudra voir sur le long terme si c'est pérennisé. Et puis ce que ça donne réellement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire un Royal Rumble féminin? Ça, c'est une autre question. Mais on peut pas nier les avancées qu'il y a eu derrière. Alors après, la WWE, elle ment sur tout, elle manipule tout le temps. C'est pas non plus nouveau. Elle applique la même chose qu'elle applique à tout ce qu'elle fait, hein. C'est un peu la base de la WWE, hein.
Oui, non, mais je parle pas de dire la vérité ou quoi que ce soit. Mais en fait, la comparaison que j'ai trouvée plutôt juste, il y a que j'ai vu du coup, je sais plus, c'était dans, je crois que c'était sur Steve Larson. Il parlait de la façon dont mince, à NXT, le GM d'NXT. Non, tu te souviens pas? Enfin bref, l'annonce de Wargames, voilà. C'est l'annonce de Wargames. C'était pas genre.
Ah oui, mais alors, oui, d'accord. Pour justifier le fait de mettre le Royal Rumble, il y a l'intrigue. Alors, moi, sur Wargame, je peux comprendre, mais sur le Royal Rumble, je vois pas comment tu peux justifier un Royal Rumble
Et
par une
bah.
intrigue.
Et bah. Non, mais.
De toute façon, même le Royal Rumble
Tu peux.
masculin, t'as pas de justification
Tu
par
peux.
les intrigues.
Tu peux
Tu,
justifier.
tu
Tu peux justifier un
Il est là tous
Rumble.
les ans, le Royal Rumble, c'est comme ça.
Non, mais tu peux ju justifier un Rumble sur le fait que y a une si enfin qu'il y a énormément de personnes qui sont dans une intrigue et que y a besoin de la résoudre avec toutes ces personnes-là
Ça résout pas
dans
d'intrigue,
le
le Royal
match.
Rumble.
Non, mais
Ça lance des intrigues, généralement.
oui, mais
Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein.
ce que je veux dire, ce que
Pour
je
le
veux dire,
tourner comme
ce que
tu
je veux
veux.
dire, c'est que je n'essaie pas de te convaincre, j'essaie de m'expliquer.
Mais je pense qu'on t'a compris. C'est pas.
Mais c'est en tout cas, je trouve que c'est agaçant la façon dont la WWE fait ça. Je vais pas dire à chaque fois, mais quasi très souvent, où genre il y a un truc nouveau et au lieu d'essayer de le raconter de façon naturelle, c'est genre on va tout arrêter, le kayfabe c'est fini maintenant. Tout le monde se tait, maintenant c'est la patronne qui parle.
Ouais, non,
Nous
là,
sommes
sur ça,
très
d'accord.
fiers
Sur le
que
segment
blablabla.
de ce soir, c'est tout à fait ça, hein. C'est-à-dire, la bagarre, elle s'arrête quand elle arrive, il y a une annonce à faire, et à la fin, tout le monde se prend dans les bras. On a oublié qu'on était en train de se taper dessus il y a 5 secondes. Ça, c'est sûr. Là-dessus, c'est pourri, hein. Ça, c'est clair.
Voilà. Et malgré ça, j'ai trouvé que, alors bon, toi, à mon avis, tu vas être beaucoup plus sévère, mais malgré ça, j'ai trouvé que ce rôle, surtout avec l'histoire de Joe, en fait, tout ce qui s'est passé avec Samoa Joe dans le show, plus le retour des revivals, plus qu'est-ce que j'allais dire, plus les séquences avec Enzo Amore, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment un rôle plutôt bon, quoi.
Ah
Donc.
oui, justement, on passe au mot de la fin. Alors. Tu vas pouvoir me
Mais
dire tout
oui,
ça.
mais c'est justement, je suis en train de transitionner Ringside. Ah, il veut son apéro Ringside. Allez.
Il est l'heure, il est l'heure, faut y aller.
On a à peine dépassé de 15 minutes. Le mot de la fin, vas-y.
Le mot de la fin.
T'es trop lent.
Le flop. Le flop, je vais le donner tout le début du show, là, au moins la première heure. Ou que ce soit Rollins et compagnie, c'est pas une bonne présentation de Babyface. Et puis l'arrivée de Hideo Itami, c'est juste pas bon. Le traitement de Finn Balor, c'est pas bon. Le top, je vais le donner à Enzo Amore qui a été, et puis Drew Gulak ensemble. Allez, les deux, ils ont été super fun ce soir. Et puis je vais mettre une note de 2,5. Ça a été plutôt croissant l'intérêt pour le show. La première heure est achetée, à mon avis, mais pour le reste, c'était bien cool.
D'accord. Mon top, c'est juste bon, alors ça va être un peu facile, mais c'est toute l'intrigue entre Rollins, Jordan, Joe, Cesaro, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Moi, ça m'a intéressé pendant tout le show, et j'ai trouvé que c'était ouais, non, c'était vraiment cool. Et puis il y avait des trucs qui étaient un peu surprenants, genre enfin le beatdown là en coulisses. Je pensais pas qu'ils allaient aller encore plus là-dedans. Donc voilà, je suis intrigué de savoir ce qu'ils vont faire avec Rollins. Le flop, ça va pas étonnant, c'est Stéphanie. C'est ce qui est hallucinant, parce que Stéphanie, c'est genre les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des semaines, elle revient. Et elle fait un discours, bon, toujours il, mais elle fait un discours où je la trouve assez percutante et tout ça. Et il y a des moments, elle est percutante, mais elle est percutante au détriment des superstars, je trouve. Voilà.
Ouais, non, mais il faudrait s'en débarrasser quand même de Stéphanie, c'est pas possible.
En effet. D'ailleurs, il y a le patron de Fightful dans un de leurs podcasts là, qui a proposé que quelqu'un la prenne en otage pendant 3 ans. La nourrice, hein, mais la prenne en otage pendant 3 ans, pour l'histoire qu'on la voit plus.
Ah ouais, non, c'est toujours beaucoup mieux quand elle n'est pas là. Hein. Ça, c'est... Je l'aime beaucoup, hein, mais il faut plus qu'elle vienne, quoi.
Voilà. Et ma note.
Et là, il y a 205 Live, qu'elle devienne chef de 205 Live, là, qu'elle leur apprenne un peu à travailler.
Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un row bien, bien amusant. Et à limite, ce segment avec Stéphanie m'avait déjà énervé, mais je crois que faire le podcast, ça m'a encore plus énervé sur ce segment. Donc je vais mettre 3 au lieu de 3,5.
Bam.
Voilà. La note tombe. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas, catch up, je suis fatigué. Catch up, c'est sur YouTube, c'est sur iTunes, c'est sur PodCloud. Vous avez toutes les news sur twitter.com/catchupcdc. Sinon, c'est youtube.com/catchupcdc. N'oubliez pas de vous abonner. On fait non seulement des podcasts sur Raw, Catch Up Raw, ou le supplément SmackDown, donc du coup avec Giscal et IRM le plus souvent. On a Talking Catch tous les mois où on parle de news, entre généralement ce mois et Ringside, hein. On parle des news importantes du mois. Depuis peu de temps, on a Ringside et l'Amiral Armbar qui nous font quelques émissions un petit peu tuto, des tutos maquillage, non, des tutos New Japan Pro Wrestling. Donc voilà, il y a le premier épisode qui est sorti. N'hésitez pas, si vous connaissez rien à la New Japan, vous allez en apprendre et de façon très didactique, pas avec 50, on va pas vous sortir 50 noms japonais à la minute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
On va faire la carte du Wrestle Kingdom, là ça va arriver début de semaine prochaine, je pense, ou fin de cette semaine.
Et ben voilà, vous êtes les premiers à le savoir. On a...
Abonnez-vous, vous serez alerté.
Oui, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche à côté, comme ça vous avez une notification dès qu'il y a une vidéo. On fait aussi des vidéos de réaction de temps en temps. Et surtout, nous avons les Catch Up Awards. Et oui, les awards les plus prestigieux de la profession, au-dessus du Hall of Fame. C'est le mardi, notez sur vos calendriers, le mardi 26 décembre. Juste après Noël, nous allons décerner 15 trophées virtuel, hein, parce qu'on ne va pas faire des vrais trophées. 15 trophées des meilleurs superstars, des meilleurs pay-per-view, et aussi quelques trophées un peu plus bizarres, tellement bizarres que certains chroniqueurs ont du mal à faire leur choix sur, sur les récompenses. Mais c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, ce sera à 19h le 26 décembre. Il y aura normalement la majorité de l'équipe, normalement toute l'équipe plutôt, normalement toute l'équipe, mais donc au minimum les trois quarts. Et on sera là en live au minimum, je pense, pendant une heure et demie, deux heures pour donner ces awards. C'est tout pour le moment. On vous remercie une nouvelle fois. Je remercie Ringside. Et puis.
C'est moi. Merci pour tout.
On vous dit bonne semaine pleine de catch. N'oubliez pas les Catch Up Awards mardi. Gros bisous. Salut.
Ciao, ciao.